Et il me semble que le regard, c'est vraiment c'est l'essentiel de la vie, c'est-à-dire c'est ce qui finalise toute la vie. Un jour, je le verrai tel qu'il est. J'aime énormément cette phrase de Saint Jean. Un jour, je le verrai tel qu'il est. Nous le verrons face à face. Vous connaissez ça par cœur, hein, vous qui êtes des amis de Saint Jean, chapitre 3 de la première épître de Saint Jean. Hein, nous le verrons face à face, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui. C'est vraiment... La vie éternelle, c'est de voir Dieu. Je le verrai de mes yeux. Je veux voir Dieu. Hein, on chante ça, c'est très beau. Qu'est-ce qui dit ça? C'est le... On chante ça, mais qu'est-ce qui dit ça? C'est Saint qui? Saint Élisabeth de la Trinité? C'est Père Marie-Eugène? C'est Père Marie-Eugène? Je veux voir Dieu. Enfin, c'est le psaume, hein. Je cherche le visage du Seigneur. Quand le verrai-je face à face? Au fond, toute ma vie est finalisée par ce regard, ce face-à-face avec Dieu. Et même... Dieu m'a créé à son image pour pouvoir me faire entrer dans ce face-à-face. C'est-à-dire, il m'a rendu apte à regarder sa divinité, à regarder comme son intériorité. Si je suis créé à son image, c'est pour pouvoir le regarder face-à-face. L'amour, c'est un vis-à-vis, c'est un face-à-face. Face-à-face silencieux. L'extrémité de l'amour, le bout de l'amour, l'accomplissement de l'amour, l'achèvement de l'amour, c'est dans le silence, dans ce silence du face-à-face avec Dieu. Et si Dieu m'a créé à son image, c'est qu'il m'a créé capable d'entrer dans ce regard. Aucune autre créature n'est capable de ce regard. Pas même les anges. Difficile la théologie angélique, hein, mais l'ange n'a pas de regard. Enfin, il a un regard qui est totalement spirituel, esprit pur. Et l'ange n'a pas de sourire, l'ange n'a pas de regard. Si, il a un regard intérieur, il a un regard spirituel, mais il n'a pas de regard corporel. Moi, j'ai un regard corporel. Et dans la résurrection de la chair, je le verrai tel qu'il est, je le verrai avec mes yeux de chair. Une chair glorifiée, c'est entendu, une chair ressuscitée, mais une chair quand même. C'est-à-dire mon corps qui reflète l'amour, mon corps qui exprime l'amour. C'est magnifique ça. Et Dieu s'est fait homme pour pouvoir me regarder comme un homme. Le regard de Dieu, c'est un regard d'homme. C'est formidable ça. On va y revenir tout à l'heure. Aucune autre créature vivante n'a cette faculté du regard. Et essayez de regarder votre petit chien dans les yeux. Ça ne dit pas grand-chose. Il est très très gentil, le petit chien aimé. Hein. Très gentil, mais il ne peut pas regarder face à face. Il ne peut pas soutenir un regard. Il ne peut pas entrer dans un regard. C'est vraiment le propre de l'homme. C'est même... Alors, évidemment, c'est analogique, parce qu'une personne... une personne aveugle, par exemple, il y a... quand même une possibilité de regard de l'intérieur, parce que le regard exprime avec le corps, les yeux du corps expriment quelque chose qui est intérieur, qui est quelque chose qui est spirituel. Le vis-à-vis, le face-à-face. Dieu m'a créé, encore une fois, à son image. Qu'est-ce que c'est à son image? C'est très complexe. Enfin, très complexe et à la fois très simple. La philosophie ou la théologie complique ça, parce que faut mettre des mots sur des réalités qui sont tellement simples qu'elles sont très difficiles à dire. Mais au fond, il m'a créé, vous savez ça par cœur aussi, j'imagine, intelligent et doué de volonté pour pouvoir entrer délibérément, pouvoir répondre librement à ce regard. C'est-à-dire entrer dans un échange d'amour. L'intelligence du cœur. Moi, j'aime beaucoup parler de l'intelligence du cœur. Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui n'ont pas de cœur. C'est froid et c'est pas drôle du tout. Il y a des gens qui ont du cœur et pas d'intelligence. C'est en général un peu con. La véritable intelligence, c'est l'intelligence du cœur. Et il y a des gens qui ont fait des très hautes études et n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études du tout, qui ont une très grande intelligence du cœur. Regardez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est un très bel exemple, hein. Elle n'a pas fait beaucoup d'études, voire pas du tout, mais elle a une intelligence du cœur extraordinairement développée. C'est l'intelligence du cœur qui me donne cette faculté du regard. Vous voyez, pensez à des petites gens, enfin je mets petites gens entre guillemets, parce que qu'est-ce qu'on appelle petites gens? Des gens qui, justement, qui socialement sont pauvres, des personnes simples, des personnes qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas développé leur connaissance, leur savoir, disons. Mais il y a des personnes... Moi, j'ai le souvenir, ça m'a marqué pour toute ma vie, un gars qui était balayeur dans la cour de mon lycée, et ce bonhomme avait une intelligence du cœur extraordinaire. Évidemment, c'était le niveau quasi zéro du rang social, hein, Mais je me rappelle, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué, parce que on a souvent échangé comme ça des regards, on a souvent échangé des choses extrêmement profondes que je ne pouvais pas échanger avec certains de mes camarades de classe. Dieu m'a créé pour pouvoir entrer dans son regard. Ça, c'est... Dites souvent ce psaume, le psaume 26, qui est tellement beau. Je cherche le visage du Seigneur. Quand le verrai-je face à face? Ça devrait être une quête de tous les jours, une quête, une soif. Je veux voir Dieu face à face. Un jour, je le verrai. Un jour, enfin, j'y pense souvent. J'essaye d'y penser souvent, mais j'essaye d'y penser tous les jours. J'y pense spécialement quand j'accompagne des personnes qui sont en train de mourir. Un jour, enfin, le voile du visible va se déchirer. Il va me faire pénétrer dans l'invisible. J'entrerai dans la salle du trône et je le verrai. Je verrai enfin celui que j'ai cherché toute ma vie. Je le verrai pour le regarder, je le verrai pour me laisser regarder, je le verrai pour entrer dans ce vis-à-vis pour l'éternité. Il y a des gens qui croient que c'est... Il y a des gens, c'est terrible, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est long, l'éternité. Mais c'est un instant, c'est un jaillissement éternel, c'est un instant qui n'a pas de commencement ni de fin. Formidable, l'éternité, hein. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que peut être l'éternité? C'est drôle parce que, vous voyez, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, on a une petite expérience de ça, peut-être la plupart d'entre nous. On a été devant un coucher de soleil extraordinaire avec un ami très cher, on a dit, je voudrais que cet instant s'arrête, je voudrais que tout s'arrête maintenant. Vous en faites pas, ça viendra. Un jour, ça s'arrêtera. Et je serai fixé dans un regard, mais un regard éternel, ça veut dire qui est un jaillissement sans... Vous savez, quand vous êtes dans ce moment extraordinaire, de ce moment d'intensité formidable, vous pouvez y rester une heure et l'heure passe comme un instant. Vous n'avez pas vu passer l'heure. Pourquoi? Parce que cet instant est un instant qui... Il n'y a plus de passé ni de futur. On est là, dans le présent. On approche un peu quelque chose de l'éternité. Vous savez, quand on est dans un moment très intense de vacances ou de retraite ou de camp, de je ne sais pas quoi, au bout de quelques jours, on a l'impression que ça fait trois semaines, un mois, trois mois qu'on est déjà là. Tellement on a fait de choses. Et en même temps, on a l'impression que c'était hier, parce que... Ça va passer en un éclair. Pourquoi? Parce que chaque instant compte, chaque instant est présent. Et ça, c'est le regard de Dieu, c'est ça, c'est l'éternité. On entre dans cette présence. Et Dieu a voulu, ça c'est vraiment l'invention incroyable de Dieu, Dieu a voulu que je puisse connaître quelque chose de cet échange, quelque chose de ce vis-à-vis, dans ma propre nature humaine. C'est Dieu a créé l'homme à son image. À son image, il le fit. Vous connaissez ça dans la Genèse. Homme et femme, il les fit. Pour que l'époux et l'épouse puissent se regarder, non seulement se regarder, mais s'embrasser dans un regard, et dans un regard intense d'amour. Au fond, l'expression de l'amour, et jusque dans l'expression la plus intime de l'amour, que dans les gestes de l'union de la chair, c'est au fond le regard. Et Marie et Joseph qui n'ont pas connu l'union de la chair, qui en ont fait l'offrande, pour eux, il y a le regard qui prend tout. Le regard prend toute la personne. Et nous, pour nous, c'est incarné, donc les consacrés peuvent en faire le sacrifice, les personnes ou les célibataires qui choisissent de vivre la virginité, qui le choisissent délibérément au départ ou qui le choisissent finalement après, quand le célibat s'impose à eux, parfois douloureusement. Mais au fond, l'essentiel qui demeure, l'essentiel qui est pour tous, c'est ce regard. Le drame, c'est le péché qui a... Le péché a foutu le poxon dans le péché a brisé le regard. C'est extraordinaire, parce que la Genèse exprime ça de manière magnifique. L'homme et la femme, l'époux et l'épouse étaient nus, n'en avaient aucune gêne. C'est-à-dire, ils étaient revêtus du regard l'un de l'autre. Et du coup, leur nudité n'avait... Ils découvraient même, comme dirait Saint Jean-Paul II, ils découvraient même le langage du corps, c'est-à-dire la vérité sponsale du corps, c'est-à-dire le corps pour le don. Qu'est-ce qui s'est passé avec le péché? Le regard a été brisé et le regard est tombé sur soi. C'est-à-dire, au lieu de donner, j'ai voulu prendre. Au lieu d'être dans ce face-à-face, dans ce vis-à-vis, j'ai utilisé l'autre pour me regarder. C'est ce qui est très, très impressionnant dans cette description du premier péché. C'est le premier péché historique, mais c'est mon premier péché aussi, mon péché primordial, mon péché d'origine à moi. C'est que mon regard est tombé sur moi. Et c'est exprimé d'une façon extraordinaire. Ils découvrirent qu'ils étaient nus. C'est un drame terrible. C'est un drame effrayant de découvrir sa nudité dans le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai découvert le néant, j'ai découvert mon néant. J'ai découvert que je ne suis rien en dehors de cette relation de vis-à-vis, je ne suis rien. J'ai perdu le sens de mon corps, j'ai perdu le sens de ma vie, j'ai perdu le sens de ma finalité. J'ai perdu ma finalité, je ne sais plus qui je suis. Ma vie n'a plus de sens au fond. Ma vie n'a de sens que dans la relation, et ma vie n'a de sens que dans ce regard mutuel. Ma vie n'a de sens que dans le don, ma vie n'a de sens que par rapport à l'autre. C'est ça qui est... Aucun être vivant ne peut avoir de signification autrement que dans le complément, autrement que dans ce vis-à-vis d'amour. Même, il y en a une trace jusque dans les plantes avec le mâle et femelle. Aucun vivant ne peut être à lui seul suffisant. Il y a deux places ici devant.
Merci.
Il faut regarder ça très longtemps pour essayer de pénétrer dans cette réalité. Le péché est un drame. Saint Jean-Paul II parlait très souvent du drame de l'humanité. Le drame, c'est... Oui, il y a un drame qui se joue là. Parce que l'homme qui est entré dans le péché est entré dans un drame. Le drame qui... C'est une vie qui n'a plus de sens. Mais malheureusement, on fait l'expérience tous les jours. Chaque fois que je suis dans le péché, ma vie n'a plus de sens. Chaque fois que je suis dans l'égoïsme, dans le mensonge, dans la jalousie, dans la gourmandise, prenez tous les péchés que vous voulez, c'est une perte de sens. Ma vie n'a de sens que quand elle est donnée. Je suis créé par le don d'amour, je suis créé pour le don d'amour. En dehors de ça, ça n'a pas de sens. Et c'est justement cette épreuve terrible du péché, pour ça que ça fait énormément souffrir, c'est que le péché me fait tomber et je me retrouve seul, et je me retrouve sur moi-même. Vous n'avez pas l'expérience de cette solitude et de cette peine du péché, quand vous reconnaissez pécheur, Heureusement, je me reconnais pécheur dans le regard de Dieu, mais si je me reconnais pécheur sur mon propre regard, je suis perdu, j'ai peur, je me fais peur. Et cette découverte de la nudité, c'est en même temps la découverte que le corps, parce que j'utilise l'autre, mon corps peut être, je peux être utilisé par l'autre comme objet. Puisque moi-même j'ai utilisé l'autre, je peux être utilisé comme j'ai utilisé le vis-à-vis. Et donc je me cache, je me protège, il faut que je me protège de ton regard. C'est effrayant ça, c'est effrayant qu'il faille se protéger du regard de l'autre. Ton regard devient une agression pour moi. Soutenir le regard de quelqu'un qui me regarde en vérité, quand je suis fautif, quand je suis pris en défaut, soutenir le regard de quelqu'un qui me regarde en vérité, c'est difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la description tellement significative. Adam et Ève se sont cachés. Dieu se promenait à la brise du soir, comme d'habitude, et Adam n'est pas là. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'étais nu, j'ai eu peur. Qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que tu aurais mangé de ce fruit dont je t'avais défendu de manger? C'est elle que tu m'as dit. Quel salaud, quel faucheton. C'est, d'ailleurs, vous constatez, hein, c'est la faute d'Ève, mais on parle toujours de la faute d'Adam. Pourquoi est-ce qu'on parle de la faute d'Adam? Parce que c'est lui qui a été responsable. C'est lui qui porte la responsabilité. Et bon, c'est une autre affaire, ça, on peut en parler longtemps, mais c'est important, hein, c'est beau. C'est beau, Dieu a donné la femme à l'homme pour que l'homme puisse prendre conscience de qui il était. Ce coup-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et justement, il est capable d'entrer dans le vis-à-vis, dans sa nature humaine. Et époux et épouse, dans ce regard, prennent toute leur signification. Leur signification sponsale, disait toujours Jean-Paul II. Je comprends qui je suis une énergie pour donner, je suis une énergie pour aimer. Et elle prend conscience qu'elle est une énergie, elle est une demeure pour recevoir, pour accueillir et pour féconder. Tout ça est complètement foutu par le péché, brisé par le péché. Alors Adam et Ève se sont cachés dans le buisson, et voilà, on est devant cette question, comment faire sortir l'homme de son buisson? Comment faire sortir l'homme de son buisson sans violer sa liberté? Ça, pour Dieu, c'est une fameuse question. Vous seriez Dieu, vous feriez quoi, vous? Vous avez déjà pensé à la question? Comment vous faites sortir quelqu'un qui s'est caché parce qu'il a eu peur? Il faut le rassurer, mais comment le rassurer? Oui, je suis d'accord avec vous, il faut le rassurer, mais on essaiera de voir tout à l'heure. On essaiera d'aller voir jusqu'au bout comment Dieu s'y prend. Parce que de fait, Dieu aurait pu taper dans ses mains, allez les enfants, la récréation est finie, on sort et puis on recommence. Mais à ce moment-là, l'homme n'était plus libre. L'homme n'assume plus sa responsabilité. L'homme n'assume plus les conséquences de ses actes. Si l'homme n'assume plus les conséquences de ses actes, sa liberté, c'est un leurre. Sa liberté est un mensonge. Si l'homme est tombé, il faut qu'il assume les conséquences de son péché, qu'il assume les conséquences de ses actes. Et donc il va falloir que Dieu l'aide à sortir de son buisson pour en retrouvant ce regard qu'il a perdu. Voilà tout l'objet, toute la difficulté est là. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne d'abord un homme qui est complètement centré sur lui-même. J'ai peur du regard de l'autre. Je suis terrifié par mes blessures, je suis terrifié par cette espèce de... Je me déprécie à mes propres yeux. Vous savez, on dit souvent le péché, ça fait perdre l'estime de soi, etc. Oui, oui, en termes de psychologie, c'est vrai. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec toutes les tartes à la crème modernes, la confiance en soi, l'estime de soi, tous ces machins-là. Oui, je comprends, psychologiquement, je comprends ce que ça veut dire, mais je ne suis pas très à l'aise avec ça, parce que, moi, vous voyez, plus je vieillis, maintenant que je suis vieux, je peux le dire, plus je vieillis, moins j'ai confiance en moi. Et plus j'ai confiance en lui. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'avais une grande confiance en moi. Je ne craignais rien ni personne. J'avais plutôt une bonne santé, j'ai réussi à peu près ce que je voulais faire. J'aurais parcouru le monde entier pour aller parler de Jésus et convertir le monde, ceux qui ne connaissaient pas encore le bon Dieu. Mais je ne craignais rien, j'avais une très grande confiance en moi. À 60 et quelques années, j'ai de moins en moins confiance en moi. Ça m'amuse beaucoup d'ailleurs de penser ça, parce que quand j'étais jeune, je ne pouvais pas imaginer que ça arriverait un jour. Et j'ai de plus en plus confiance en lui. Mais parce que je sais trop bien ma fragilité, je le sais beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Je sais trop bien, on fait tous un peu le parcours de Pierre qui se casse la gueule en cours de route. Seigneur, si les autres craquent, moi pas, j'irai jusqu'à la mort avec toi. Oh là 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 là, oh là là. Pierre, ce soir même, le coq n'aura pas chanté, tu m'auras renié trois fois. Quand Jésus lui a dit ça, il a dû être, c'est pas possible, il n'a pas confiance en moi. Mais je suis sûr, moi, je l'aime. On n'a pas attendu très longtemps. Hein. Et les larmes qu'il a versées le soir sont terribles, parce que... Mais ce qui est formidable, d'ailleurs, c'est que Pierre ne pleure pas sur lui, il pleure parce qu'il a fait mal à Jésus, il a blessé Christ. Le dernier mot qu'il a entendu de moi, c'est « Je ne connais pas cet homme ». Et j'aime bien dire, parce que je crois que c'est vrai, si Pierre avait aimé Jésus un peu moins, il aurait foutu le camp comme les autres et il ne l'aurait pas renié. Et c'est parce que Pierre aime les autres plus, et aimait Jésus plus que les autres, qu'il est allé jusqu'au palais du grand prêtre. S'il avait aimé Jésus un peu moins, il n'aurait pas renié. Marrant ça, hein, c'est intéressant. Et d'être plus près de Jésus, c'est dangereux, parce que je peux tomber de plus haut. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais, parce que c'est une petite parenthèse spirituelle au fur et à mesure, mais la faute principale de Pierre, c'est qu'il suivait de loin. Regardez attentivement l'évangile. Quand Pierre a, dans le jardin de l'agonie, quand Pierre a sorti son épée, et puis... Jésus l'a réprimandé un peu. Je comprends tellement Pierre, je comprends tellement. C'est une petite parenthèse, mais je ne peux pas résister. Quand les gars sont venus arrêter Jésus, Pierre est fou et il se dit, mais on va faire bloc, on va faire corps, on va se défendre, on va pas le laisser embarquer comme ça. Et à ce moment-là, tout le monde fout le camp, sauf Jean. Tout le monde fout le camp. Non seulement Pierre est absolument fou parce qu'il découvre que c'est Judas qui est le traître. Ah putain, le salaud, c'est lui. Enfin, il n'a pas dit que moi, mais... Et au moment où il se dit, on va tous se défendre, on va faire cercle autour de lui, tout le monde fout le camp. Et même ce garçon-là, dont on dit que c'est Saint-Marc, qui fout le camp à poil parce qu'on retient le drap dont il était vêtu, vous vous rappelez ça? Et du coup, je comprends très bien que Pierre qui sort son truc, qui en fermant les yeux donne un grand coup, et là, il coupe l'oreille de Malchus là, et puis Jésus touche l'oreille, pof, narcole, c'est quand même pas mal. Tout ça dans le sang, dans le noir, dans l'agonie, c'est une scène effroyable, effroyable quand on en regarde de près. Hein. Je comprends très bien que Pierre est suivi de loin du coup parce qu'il avait la trouille. Et il se planque derrière les arbres, il suit à 50 mètres, quoi, pour pas qu'on le remarque. Et quand il s'est fait avoir, du coup, hein, en entrant dans le palais, il aurait suivi de près, il aurait été avec Jésus et Jean, on ne lui aurait pas posé la question à la porte. Mais il suit à 100 mètres derrière. Tu es avec le groupe, là tu... Non, je passe par là, par hasard. Et puis Satan sait très bien y faire. Un petit mensonge, une petite pause, deuxième mensonge, paf, aussitôt le troisième. Et là, il est foutu. Bon, il y a ce regard, cet échange de regard formidable entre Jésus et Pierre, juste après le troisième reniement. Jésus est emmené pour le flagellat, enfin pour la nuit, et Pierre croise ce regard de Jésus et il est, enfin ça déclenche, c'est les pleurs, c'est effrayant. Le regard de Jésus à ce moment-là. Quand je prends conscience de mon péché, j'ai un regard qui est complètement blessé, puis j'ai un regard sur moi qui est je me déprécie moi-même. Vous voyez, est-ce que vous faites votre examen de conscience dans votre regard ou sous le regard de Dieu? Si c'est dans mon regard, je suis foutu. Soit je me dis, bon, c'est pas trop grave quand même, quand je me compare aux autres, c'est pas si mal. Soit je me déprécie. Au fond, c'est toujours de l'orgueil. Hein. Mon regard à moi, il est toujours piégé par l'orgueil. Ou bien je me trouve mieux que je ne pensais. Et ça, je suis le seul à savoir. Enfin, je suis le seul à ignorer que je ne suis pas. Que je ne suis pas le con que j'oserais ne pas être. Ou bien je me déprécie moi-même, ou bien je me glorifie moi-même. Mais je suis. Dans les deux cas, c'est de l'orgueil. Je me lamente de ne pas être à la hauteur de ce que je voudrais être. Ou bien je me prends pour ce que je ne suis pas. Dans les deux cas, c'est un regard qui est faussé. Le regard que je pose sur moi est complètement faussé. Ou bien c'est un regard qui me condamne, ou bien c'est un regard qui me disculpe, mais à bon marché, et c'est totalement faux. Au fond, toutes les blessures, y compris toutes les blessures psychologiques, viennent de quelque chose comme ça. Non, ça ne veut pas dire qu'on est tous responsables. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des blessures psychologiques qui conduisent à des déséquilibres psychiques, et qui la responsabilité n'est pas engagée, parce que ce sont des blessures qu'on a subies éventuellement. C'est très très complexe, ça, c'est la science de la psychologie et du psychisme, c'est complexe, hein, mais c'est important. Mais pour nous, ça suffit de dire que dans l'examen de conscience, dans le regard que je porte sur moi-même, je ne suis pas du tout objectif avec moi-même. Je vais prendre des taupinières pour des montagnes et des montagnes pour des taupinières. C'est la raison pour laquelle il faut que je fasse ce regard, il faut que je fasse cet examen de conscience sous le regard de Dieu, dans le regard de Dieu. C'est le seul regard qui soit réel, qui soit ajusté. On va essayer de donner quelques exemples tout à l'heure, mais le pire évidemment, c'est de subir le regard de Satan. Satan ricane en me regardant et me pointe du doigt, me montre du doigt. Vous faites tous un peu des efforts pour le carême, et puis vous avez pris des résolutions les premiers jours, puis là vous voyez la quatrième semaine arriver et vous dites, bon, il va être temps de commencer parce que il y a plus que deux semaines, quoi. Voilà, et alors si vous vous laissez faire, il y a Satan qui vous pointe du doigt, tu vois, t'es nul, tu n'y arrives pas, et il suffit qu'il prenne une résolution pour que tu retombes dedans aussitôt, t'as jamais faim dans le reste de l'année, et puis là, vous voyez que c'est le vécu. C'est extraordinaire, mais Satan est vraiment dégueulasse, parce qu'il sait parfaitement, en plus c'est vraiment franchement complètement idiot, quoi, il nous met par terre avec des bêtises. Mais il nous accuse violemment parfois. Dès que je sens un doigt pointé sur moi, un doigt accusateur, c'est signé Satan. Jamais, vous m'entendez bien, jamais Dieu, jamais Jésus, jamais la Vierge Marie ne pointe le doigt sur moi en disant « Regarde ». Ça, c'est signé Satan. Satan est l'accusateur. C'est comme ça qu'on l'appelle, dans l'Apocalypse en particulier. Il y a un cantique magnifique qu'on chante le haut bréviaire le jeudi soir. Ils l'ont vaincu, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par l'amour de Jésus. Ça, c'est vraiment... C'est fondamental, ça. C'est-à-dire, dès que je me sens accusé, dès que je me sens enfermé sur moi-même, c'est parce que je suis sous le regard de Satan. C'est fondamental, ça, de comprendre ça et d'essayer de le percevoir. Jamais, jamais Dieu n'accuse. Et je vais même plus loin, jamais Dieu ne fait de reproche. Et alors je sais bien, dans la Bible, de temps en temps, on traduit reproche, mais le mot français n'est pas bon. C'est, non, Dieu se plaint, oui, Dieu se plaint, Dieu a mal, Dieu me fait remarquer que je suis coupable, Dieu me corrige, oui, mais sans m'accuser. Il n'accuse que ceux qui sont durs et que ceux qui ferment. Vous voyez, quand Jésus va parler à des pharisiens, par exemple, et là il y a, de temps en temps, il y a des grands coups, hein. Ou bien le psaume 49, « J'accuse, je t'accuse, tes sacrifices sont toujours devant moi. Est-ce que tu crois que je vais t'attendre pour aller manger, le monde est à moi, tu crois que je vais t'attendre pour aller manger la chair des taureaux et des boucs que tu me donnes ? Ce que je veux, ce n'est pas les sacrifices, c'est un cœur brisé, un cœur contrit. Vous comprenez ça ? Dieu n'accuse que pour percer un blindage, quelque chose qui m'enferme en moi-même. Mais Dieu n'accuse pas celui qui se tourne vers lui. Jamais. C'est étonnant, comme j'ai toujours été bluffé de ça quand j'étais éducateur, quand je me suis occupé beaucoup d'enfants et d'adolescents. Le petit enfant se contrefiche de savoir ce qu'il fait. Enfin, le petit enfant n'a pas du tout le regard sur lui-même. Vous voyez, un petit gosse qui se promène à poil dans le salon, ça ne gêne pas du tout. Hein. Vous dites à un petit enfant, mais dis donc, tu es sale. Il s'en contrefiche, il dit, on va prendre une douche, mais c'est pas grave. Et vous dites à un enfant, mais dis donc, tu es mal élevé. Dites ça à maman, moi j'y peux rien. Non mais il s'en fout complètement. C'est pas son affaire. Vous comprenez ? Et donc, c'est en retrouvant l'innocence que je vais me moquer du regard accusateur qui est porté sur moi. Je me libère du regard accusateur en étant innocent. Comment est-ce que je vais retrouver l'innocence ? Justement, en retrouvant le regard de Dieu. Je vais mettre ça en attente pour tout à l'heure. Parce que je voudrais dire, justement, du coup, faire le pendant. Mon regard sur l'autre est complètement blessé aussi. C'est-à-dire, j'ai un regard sur l'autre qui est complètement faussé. J'ai peur de l'autre. Ou bien je cherche à le dominer parce que Mais l'orgueil a fait que j'ai voulu être la référence, j'ai voulu être le premier, j'ai voulu être au centre. Et du coup, j'ai très peur qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui me fasse de l'ombre. Il faut que faut que j'écarte, il faut que j'élimine, il faut que je sois le plus puissant. Alors, ou bien je me laisse écraser, mais c'est une autre manière de dominer. C'est dans le même sens, mais dans le contraire. Vous voyez, on voit des gens qui se confessent, oh là, mon père, je suis le pire des pécheurs, j'ai fait des... Mais non, vous êtes un pécheur très ordinaire. N'allez pas vous vanter de péchés qui sont très, très, très quelconques. Et on va mettre quelquefois de l'orgueil dans le repentir, ce qui est comble quand même, vous voyez. Non, je demande pardon parce que, point, basta. Il n'y a aucun commentaire à faire. Oui, j'ai fait des choses qui sont... des choses que j'aurais voulu ne pas faire, que j'ai faites. Des choses que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas faites. Je demande pardon. Point, mais je n'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai pas d'appréciation à donner, moi. Mais du coup, mon regard sur l'autre est très faussé. Parce que je vais ou bien regarder l'autre simplement pour mettre en avant ses qualités, parce qu'en fait, ça va rejaillir sur moi. Je vais me glorifier à travers les qualités de l'autre. Ou bien je vais mettre en exergue ses défauts, parce que je voudrais l'enfoncer. J'ai un regard très, très faussé sur les autres. C'est difficile d'avoir un regard vraiment ajusté sur les autres. Essayez de réfléchir aux relations. Si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je vais avoir tendance à le protéger de mon regard, mais et à éventuellement ignorer des choses qui jusqu'à perdre l'objectivité sur quelqu'un. Vous savez, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne réputation. Puis après, vous faites ce que vous voulez parce que vous êtes toujours couvert par la bonne réputation. J'ai une histoire que j'aime beaucoup de Don Bosco, comme ça. Don Bosco organisait... J'aime bien cette histoire. Don Bosco organisait des dîners de marquises, du temps où les marquises n'étaient pas toutes fauchées. Il organisait des dîners de marquises pour avoir un peu de fric pour ses œuvres. Et alors, un jour, un dîner comme ça, où il y avait des dames bien toilettées, et alors... une dame arrive le dessert et a un gros gâteau énorme et une petite dame, le cul un peu serré, qui dit à sa voisine, vous allez voir, il est tellement sain, il va prendre un tout petit morceau. Bien, alors le gâteau arrive devant Don Bosco qui prend un énorme part plein son assiette. Il est tellement humble qu'il ne veut pas que ça se sache. Ils sont déjà magnifiques, vous voyez, vous avez une bonne réputation, tout va tourner à votre avantage. Vous avez une mauvaise réputation, tout va tourner à votre désavantage. C'est beau ça. Et le regard complètement faussé. Quel regard est-ce que je porte sur les autres? Vous voyez, des hommes politiques qui sont plutôt un peu dans mon sens, j'aurais plutôt tendance à être indulgent pour des choses que... Mais les hommes politiques que j'ai dans le nez, alors là, il n'y a rien qui puisse passer. Hein. Et finalement, c'est un peu comme ça pour tout. Le curé qui est plutôt dans mon sens, les prêtres que j'aime bien... Bon, alors c'est très indulgent pour les prêtres, vous voyez, les prêtres qui sont, comme j'ai pas envie qu'ils soient, paf, alors là. Mais c'est comme ça dans beaucoup de relations. Il faut essayer de comprendre, c'est ça que je voudrais faire, mais il faut que je passe un peu. Mon regard est complètement faussé par le péché. La pire manière de fausser le regard, évidemment, c'est la concupiscence. La concupiscence qui joue dans plusieurs sens, mais la concupiscence, c'est un désir cupide. La concupiscence, c'est je regarde quelqu'un soit en répulsion, soit en appétit, mais d'un appétit qui est pour moi, qui est complètement centré sur moi. Au fond, on pourrait dire le regard est faussé par manque de chasteté, on peut dire ça d'une certaine manière. Il y a la chasteté par rapport à la vie sexuelle, mais si on étend la chasteté d'un point de vue spirituel d'une façon un peu plus large, on peut dire le manque de chasteté fausse complètement le regard. Mais le manque de chasteté, c'est justement dans un regard qui n'est pas ajusté. Je pense que c'est très important d'essayer de discerner les altérations du regard que j'ai sur moi-même, que j'ai sur les autres, et même que j'ai sur Dieu. Alors voilà, la question, c'est comment rétablir le contact avec Dieu, comment retrouver le regard de Dieu, comment retrouver le face-à-face avec Dieu. Parce qu'au fond, c'est ça, toute ma vie, on l'a dit, est finalisée par ça. Comment retrouver cette relation directe avec Dieu? C'est par le Christ que ça va se passer, puisque Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Et qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Donc c'est le regard de Jésus qui va me manifester le regard du Père, qui m'a vu le regard de Dieu. Du coup, ça vaut la peine de regarder un peu les regards de Jésus. On pourrait faire toute une retraite, et encore, on n'en aurait pas assez, toute une retraite sur les regards de Jésus. C'est passionnant. Je pourrais pas y rester très longtemps, mais les premiers regards de Jésus sur sa mère, regardez le regard d'un nourrisson sur sa mère, quand Dieu est un bébé... Formidable, ça. J'aime beaucoup cette méditation au moment de Noël. Quand je me penche sur la crèche, quand je me penche sur le berceau de Jésus, que je sois criminel ou le plus grand saint, Jésus me regarde avec le même regard. C'est formidable. Un nourrisson a le même regard pour sa mère et pour le criminel. C'est étonnant, ça, hein. Le nourrisson n'a aucune prévention vis-à-vis du criminel. Il ne sait pas qu'il est criminel. Le regard de Dieu est parfaitement innocent. C'est-à-dire, le regard de Dieu, moi qui suis pécheur et pauvre type, le regard de Dieu est parfaitement innocent par rapport à moi. C'est-à-dire, c'est le regard d'un nourrisson. C'est beau de regarder ça. Hein. C'est-à-dire, Dieu me regarde comme un bébé regarde sa mère, comme un bébé regarde le criminel. Ça en dit beaucoup sur le regard de Dieu. Ce sera aussi l'homme crucifié, je y reviens tout à l'heure. Mais le premier regard de Dieu, c'est quand même inouï ça. Jésus, le Verbe fait chair, le Verbe, la parole de Dieu incarnée. Quand Dieu se manifeste, il se présente sous la forme d'un bébé qui ne sait pas parler. La parole de Dieu, c'est un bébé qui ne sait pas parler. La parole de Dieu, c'est un regard. La parole de Dieu, c'est le regard du nourrisson qui regarde sa mère, il est en train de téter son sein. Il faut longtemps regarder des bébés pour essayer de comprendre ça. Comment Dieu me regarde, comme un bébé me regarde, exactement comme ça. Et bien un bébé, un nourrisson, hein, il faut, pour ça que j'aime baptiser les enfants qui sont quelques semaines, dès qu'ils ont 3 mois, c'est déjà foutu. Non, mais le regard est moins pur, le regard est moins... Puis ça commence à gigoter, ça commence à... Quand je pose le bébé sur l'autel, il commence à vouloir prendre le calice et tout. C'est extraordinaire, ça. Jésus enfant. Quand essayez d'aller au temple, regardez Jésus qui a 12 ans, qui parle avec les docteurs du temple, les grands prêtres, Le regard de Jésus sur ces bonhommes, c'est formidable quand même. Le regard de Jésus sur sa mère qui le cherche avec Joseph. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Regarde dans quelle angoisse nous t'avons cherché, ton père et moi. Ah, et comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Le regard de Jésus. C'est le regard de Dieu. Hein. C'est-à-dire, le regard de Dieu, c'est aussi bien le regard du nourrisson que le regard de l'enfant à 12 ans, que le regard de Jésus qui est en train de mourir. C'est le regard de Dieu, tout ça. C'est le même regard. C'est le regard du même Dieu. C'est intéressant, quand même. C'est intéressant d'essayer de... Vous ennuyez dans l'adoration, par exemple. Hein. Vous ne savez pas quoi faire. Au bout d'un quart d'heure, vous regardez votre monde. Oh là là. Regardez le regard de Jésus, laissez-vous regarder, vous allez voir. C'est extraordinaire. Le regard de Jésus sur ses premiers disciples, Jésus qui pose son regard sur les premiers apôtres, et puis qui les appelle, et c'est irrésistible. Aussitôt, il les suivit. Le regard de Jésus sur les foules, le regard de Jésus sur le jeune homme riche, posant son regard sur lui, il l'aima. Le riche qui donne rien, et puis la pauvre veuve qui a rien, qui donne tout. Le regard de Jésus sur la pauvre. Il regardait les gens qui donnaient dans le tronc, il regarda cette pauvre veuve qui mettait 2 pièces 7. Alors, évidemment, le regard de Jésus sur Zachée, la puissance du regard de Jésus pour que Zachée voulait voir Jésus sans être vu. Vous voyez, la première devise du bon soldat, voir sans être vu. Zachée était un bon soldat. Le manque de peau, ça n'a pas marché avec Jésus. Hein. Jésus a un regard perçant. Il l'a vu dans le sycomore. Et quelle puissance du regard de Jésus pour qu'il soit complètement retourné comme ça. Mais, et là, je disais, comment Dieu fait-il pour faire sortir Adam de son buisson? Là, on avait déjà une première approche. Jésus a bouleversé Zachée sans un mot, sans lui dire, simplement, Zachée, je dois demeurer chez toi ce soir. Zachée est complètement retourné. Et pourtant, il était près de ses sous, hein. C'était important pour lui. Je voudrais regarder longtemps l'échange de regards entre Zachée et Jésus. Alors, il y en a deux que je voudrais regarder davantage. C'est le regard de Jésus sur la Samaritaine. Donne-moi à boire. Ah, mais tu me demandes à boire, moi qui suis Samaritaine, mais je croyais que les Juifs n'avaient aucun rapport avec les Samaritains. Ah, si tu savais qui te demande à boire. C'est toi qui lui aurais demandé l'eau vive. Il t'aurait donné cette eau qui tient devant toi comme une source de vie, jaillissant pour la vie éternelle. Oh, Seigneur, donne-la-moi cette eau-là, je n'ai plus besoin de puiser. Allez, va chercher ton mari. Oh, qu'est-ce que tu qui tue ? C'est incroyable quand même. Mais quand vous entendez cette question-là, ça veut dire que le cœur de cette femme est déjà totalement travaillé par le regard de Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle va dire quand elle va retourner chez elle. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce qu'il ne serait pas le Christ ? Le regard, quel regard Jésus a posé sur cette femme, qui est quand même une femme, je ne veux pas dire, enfin une femme pas très recommandable, quoi. Quel regard Jésus a posé sur elle ? En fait, Jésus a décelé la souffrance de cette femme et il l'a retournée par-dessous. Peut-être qu'un des regards, en tout cas moi, un des regards qui me bouleverse le plus, c'est le regard de Jésus sur la femme adultère. Jésus est en train d'enseigner au temple, il y a tout un groupe autour de lui, et puis des grands prêtres, des pharisiens lui apportent une femme, lui amènent une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Je me demande si on ne l'a pas piégée d'ailleurs, cette femme, la pauvre, la femme. On ne peut pas savoir. Toujours est-il qu'ils amènent cette femme au milieu du cercle en l'accusant. Et toi, que dis-tu? Puisque la loi dit qu'il faut lapider ces femmes-là, qu'est-ce que tu en dis? Et Jésus, baissé sur le sol, dessine sur le sol. C'est, vous savez, dans l'Église, j'ai toujours voulu qu'on ait une représentation grandeur, grande taille du visage du suaire de Turin. Ce visage me bouleverse. C'est un grand dévot du visage de Jésus du suaire. C'est que Jésus ait voulu qu'on ait sa photo pour le XXe siècle, c'est quand même fabuleux. C'est dingue, quand même. Non, mais c'est incroyable. Je connais le visage de mon Dieu, mais c'est incroyable. C'est inouï. Jésus nous a laissé sa photo. Enfin, c'est quand même une photo qui n'est pas faite de main d'homme, qui reste une des plus grandes énigmes scientifiques du monde. Sans doute la plus grande, d'ailleurs. Et ce qui m'a toujours bouleversé de ce regard de Jésus, il a les yeux clos. Je pense toujours à cette scène avec la femme adultère et à ce verset d'Isaïe, il baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Il baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Il me regarde avec un regard qui est du dedans. Vous voyez, le regard, quelquefois, le regard pourrait appuyer et le regard pourrait être gênant. Et il me regarde avec un regard qui vient du dedans. Et donc, il a les yeux baissés, puis il dit cette phrase que vous connaissez bien, celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre, alors ils s'en vont, à commencer par les plus vieux. Et Jésus reste seul avec cette femme. En fait, on ne regarde jamais ça, mais il n'est pas seul, Jésus, avec cette femme. En fait, le groupe qu'il est en train d'enseigner reste, et il est resté. Hein. Et donc, les gens qui sont des petites gens, qui sont tous pécheurs, se demande ce que Jésus va faire, ce que Jésus va dire. Moi, je suis bluffé aussi de ce que la femme adultère, elle n'est pas foutue le camp. Elle aurait très bien pu. Hein. Elle aurait très bien pu, puisqu'elle n'avait plus d'accusateur. Elle aurait pu foutre le camp aussi. Si elle est restée, c'est parce qu'elle avait confiance. Elle avait déjà repéré quelque chose du regard de Jésus. Alors Jésus se relève et lui dit, « Femme, personne ne t'accuse ?» Ben non, personne, Seigneur. Alors moi non plus, je ne t'accuse pas. Va, ne pêche plus. Quelle puissance du regard de Jésus sur cette femme. Ça, c'est bouleversant, ça. Je pense très souvent à ça quand je vais me confesser. Alors, personne ne t'accuse. Ben, apparemment, non. Tous ceux qui voulaient me lancer des cailloux sont partis. Bon, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va, ne pêche plus. Ça, c'est prodigieux, ça. Vraiment, la profondeur du regard. Mais vous sentez, peu à peu, on approche du regard de Jésus qui non seulement n'appuie pas, mais qui est un regard qui relève, qui est un regard qui, comme quelqu'un disait tout à l'heure là, qui redonne confiance, mais qui en même temps qui console et qui redonne une dignité. C'est un regard qui... Comment est-ce que vous regardez quelqu'un qui est coupable, quelqu'un qui est accusé, quelqu'un qui est... Jésus repère tout de suite, Jésus est bouleversé par la peine du pécheur, par la souffrance du pécheur. Et quand on parle du père de la parabole de l'enfant prodigue, par exemple, il fut saisi de pitié en voyant le fils revenir. Saisi de pitié, c'est une gentille traduction pour ne pas faire peur à la messe, mais la vraie traduction, c'est qu'il est bouleversé dans ses tripes, il est retourné au-dedans de lui-même, il est retourné dans son ventre, dans ses entrailles. Ça, c'est le regard de Jésus, c'est le regard de Dieu sur le pécheur, c'est sur moi. Quand Jésus me regarde, il est bouleversé. Il est bouleversé à la fois parce qu'il m'aime et parce qu'il sent que je souffre d'être pécheur, je souffre d'être coupé de lui, je souffre d'être... Moi, quand je vois un salaud, quand je vois un pécheur, j'ai envie de lui dire... Jésus, il a un regard exactement inverse. Vous en connaissez des salauds, vous, hein, vous quoi. Enfin, on en voit dans le monde, dans la vie. Il y a des criminels, des gens qui sont vraiment... des gens qui sont haïssables, parce qu'ils font vraiment des saloperies. Et vous avez un regard sur eux qui repousse, qui rejette, qui refuse. Jésus n'a jamais, jamais, jamais ce regard-là. Et on va arriver au comble du comble, au calvaire. Jésus n'a pas moins aimé le mauvais larron que le bon. Jésus a eu le même regard pour le mauvais larron que pour le bon. C'est étonnant ça quand même, non? Il y en a un qui se ferme et l'autre qui s'ouvre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est extraordinaire, parce que jusqu'à la fin du monde, nous est proposé ce spectacle de Jésus crucifié, avec d'un côté celui qui se ferme et de l'autre côté celui qui s'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à la fin du monde, j'ai l'innocent qui souffre injustement, entouré par deux personnes qui sont aussi criminelles l'une que l'autre, mais l'un refuse de voir et s'enferme dans son angoisse, l'autre s'ouvre et meurt en paix. C'est ça. Comment ça se fait? Je voudrais essayer de regarder quelques minutes ce qui s'est passé pour le bon larron, parce que c'est une clé, évidemment, c'est une clé formidable pour nous. Le bon larron... Ah, j'aime énormément le bon larron, et de plus en plus. C'est vraiment un... Le bon larron, depuis le matin, il a rencontré Jésus depuis le matin. On était dans la cour du gouverneur ensemble, on a commencé le chemin de croix ensemble. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a une telle haine contre Jésus, il y a un tel acharnement contre Jésus, qu'en fait les deux, là, ils ont presque la vie tranquille dans le chemin de croix. On ne s'occupe pas d'eux, on s'occupe que de lui, que de Jésus. Et le bon larron est saisi, parce que pourquoi cet acharnement contre cet homme qui, en plus, qui n'a pas la gueule d'un criminel? Il n'a pas la gueule d'un criminel, il n'a pas du tout la réaction d'un criminel. Parce que Jésus, défiguré de douleur et de souffrance, il est déchiré littéralement déchiré par la flagellation, couronné d'épines, c'est monstrueux. Et Jésus, défiguré par la souffrance et par les blessures qu'il porte, n'a pas l'ombre d'un mouvement d'impatience. Un criminel, il gueule, il se défend, il injurie tout le monde, il injurie le sort, il injurie Dieu, il injurie tout le monde. Enfin, c'est... Et là, il n'y a pas l'ombre, mais pas, pas, un, pas le premier mouvement d'impatience. Et pour peu qu'il ait rencontré le regard de Jésus, il a découvert dans le regard de Jésus une peine infinie, une souffrance indicible, mais avec un amour absolument bouleversant. Il porte autour du cou le criteau, vous savez, le criteau qu'on va clouer sur la croix tout à l'heure, que Jésus, roi des Juifs, ça veut dire. Il se pose des questions, le bon larron. Hein. Lui, le bon larron, il a un écriteau criminel, quelconque. Il s'est passé sur la route, sur le chemin de croix, il a vu, il a repéré dès le début, il a repéré cette femme étonnante. Une femme, la cinquantaine, d'une beauté qu'on ne peut même pas imaginer. La plus belle femme du monde, mais la femme, vous voyez, le canon le plus impossible à découvrir, vous voyez, la plus belle femme du monde par rapport à la Vierge Marie, c'est la butte Montmartre et les vestes, quoi. Non, mais la Vierge Marie, c'est de la beauté, on ne peut même pas imaginer une beauté plus belle. C'est le chef-d'œuvre de la création, c'est ce que Dieu a fait de plus beau, qu'est-ce que vous voulez, vous vous rendez compte. Mais rien, enfin en plus elle est immaculée, rien en elle ne fait obstacle à la lumière de Dieu, rien en elle ne fait ombre, il n'y a pas l'ombre d'une imperfection en elle. Alors cette femme qui souffre, c'est encore plus bouleversant. Ce que le bon larron a très bien repéré, c'est que, parce qu'elle est très présente dans le chemin de croix, Marie, et ce que le bon larron a parfaitement repéré, c'est que comme Jésus, dont le bon larron ne sait rien au départ, il y a dans son regard la même peine, la même douleur, mais la même douceur indicible. Je pourrais rester plus longtemps, mais le bon larron entend au moment où on enfonce les clous dans les poignets de Jésus et dans ses pieds, le bon larron entend, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, on ne sait même pas où on est, quoi. C'est impensable, un homme qui dit ça. Et là, on est crucifié, alors je me mets à la place du bon larron. Il y a Jésus qui est à côté de moi, là, pas loin, là. On peut presque toucher les mains, puis de l'autre côté, l'autre. Au bout, là, à 150 mètres, 100 mètres, les badauds qui passent sur la route, tiens, trois pauvres cons qui se sont fait avoir. Les Romains en ont pris trois, tiens. Les badauds, c'est des badauds, hein. Ça reste pas longtemps. Et puis là, le groupe des grands prêtres et des pharisiens, des chefs du peuple, qui hurlent de haine, mais d'une haine incompréhensible, une haine pareille, incompréhensible. Et le bon larron, il a tout loisir de regarder, il est crucifié, hein, mais il peut regarder quand même. Alors ce qui est incroyable, c'est que il ne peut pas voir le regard de Jésus qui est à côté de lui. Il ne peut regarder que ce qui est devant lui. Mais il entend. Alors il entend les grands prêtres, si t'es Dieu, descends de la croix, à ce moment-là on croira. Et puis ce qui déclenche ce qui brise le cœur du bon larron, ce qui fait exploser le cœur du bon larron définitivement, c'est quand le mauvais s'y met en embrayant avec les grands prêtres. Ah ben c'est ça, descends de la croix, puis sauve-nous avec une haine et une hargne. Et alors là, c'est ça qui a fait exploser le cœur du bon larron. Tu ne vois pas que pour nous, c'est justice après ce que nous avons fait. Mais lui, il y a la confession du péché, et la reconnaissance de la possibilité d'être sauvé. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ça coule. Alors il manque un élément qui est l'élément clé. C'est pour ça que je veux. L'élément clé, c'est la Vierge Marie qui est au pied de la croix. Le bon larron, évidemment, il a reconnu. Tout le monde rigole quand je dis ça, mais parce que personne n'y pense. Il a immédiatement vu que cette femme était la mère de son voisin. C'est bien simple, c'est le portrait de sa mère, Jésus. Il n'a que sa mère à qui ressembler. Donc, jamais un homme n'a ressemblé à sa mère comme Jésus a ressemblé à Marie. Mais c'est extraordinaire. D'habitude, vous voyez, il a le nez de son père et puis les oreilles de sa mère ou le sourire de sa grand-mère, je ne sais pas quoi. Enfin, mais là, il a tout de Marie. Absolument tout. Le nez, les oreilles, la bouche. Longtemps, j'ai cherché à savoir à quoi ressemblait la Vierge Marie, mais maintenant je sais. Vous prenez la photo de Jésus, le Saint-Sphère, là, vous enlevez la barbe, vous féminisez un tout petit peu les traits, vous avez le portrait. Là, vous verrez aussi, vous serez surpris. Là. C'est extraordinaire, quand même. Et donc, le bon larron, ça crève les yeux, cette ressemblance entre Jésus et sa mère. Mais ça crève les yeux au sens fort. Hein. Et du coup, le bon larron est saisi par cette mère qui est présente, et puis il a entendu ces paroles mystérieuses et énigmatiques. « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Il y a une proximité, il y a une délicatesse, il y a une douceur, une tendresse entre Jésus et sa mère. C'est... Évidemment, le bon larron n'est pas habitué à ça, il est bouleversé par ça. Et ce regard, cette présence maternelle, ce regard de Marie qui se cogne à la haine du mauvais larron, et là, ça fait exploser son cœur. Ce qui m'intéresse, c'est le regard là-dedans. Il y a un jeu de regard formé. Jésus regarde sa mère regarde Jésus, elle le regarde par le dedans. La Vierge Marie regarde le bon larron regarde la Vierge Marie. Je pense qu'on ne le dit jamais, je ne l'ai jamais entendu, mais c'est une espèce d'exultation intérieure pour Marie de sentir que le bon larron se convertit sur la croix. C'est une espèce de consolation pour elle absolument formidable. C'est d'ailleurs la dernière joie de Jésus qui meurt. Sa mort n'est pas inutile, puisque sa mort donne le salut à celui qui est crucifié à côté de lui. La dernière peine de Jésus, la dernière souffrance de Jésus, la souffrance atroce d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas converti le mauvais larron. Le mauvais larron va mourir dans son angoisse. Qu'est-ce qui va se passer au moment de sa mort? Ça, c'est le secret de Dieu. Enfin, il va mourir dans son angoisse. C'est la dernière épine qui traverse le cœur de Jésus. Ma mort est inutile en quelque sorte parce qu'elle n'a pas réussi à vaincre la haine de ce moment, ni celle des grands prêtres, évidemment, devant. Mais la dernière joie de Jésus, l'exultation intérieure de Jésus, c'est que le bon larron s'est ouvert à côté de lui. Vous voyez, tout ça, c'est les yeux fermés, mais il y a un regard entre le bon larron et Jésus qui est phénoménal. Alors du coup, tout est réparé, le bon larron ne regarde plus le monde de la même manière, le bon larron ne se regarde plus lui-même, il est nu et il n'a plus aucune honte de sa nudité. Vous voyez, on est retourné en deçà. Le péché qui a fait qu'ils avaient honte de la nudité, là, les trois sont nus sur la croix. J'ai découvert ça, je raconte ça à tout le monde parce que ça m'a beaucoup impressionné, les JMJ de Barcelone, j'imagine que de Barcelone, de Madrid, il y a beaucoup d'entre vous qui y étaient, mais notre groupe de Paris, notre groupe de Parisiens faisait escale à Barcelone sur la route de JMJ. Et à Barcelone, j'ai découvert, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent sans doute, la Sagrada Familia, c'est fabuleux ça, c'est inouï la Sagrada. Et sur la façade nord de la Sagrada Familia, il y a les scènes de la Passion qui sont représentées, qui sont très, très expressives, des sculptures très fortes, très puissantes. Et au-dessus du portail, il y a un grand crucifix avec le Christ crucifié. Et le Christ est représenté nu sur la croix. C'est la première fois que je voyais ça. C'était sidéré. D'une façon assez discrète, c'est-à-dire que ce n'est pas choquant, mais c'est quand même bouleversant. Ça m'a énormément frappé. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est incroyable. Il aurait quand même pu mettre un pain comme les sculpteurs font d'habitude. Non, que dalle, là. Et ça m'a vraiment travaillé pendant longtemps, pendant toutes les JMJ, puis le retour, plusieurs semaines. C'est vraiment quelque chose qui m'a saisi. J'ai pris conscience que Jésus était cloué nu sur le bois. Et c'est longtemps, enfin, des semaines après, que j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Vous voyez, pour que... Comment Dieu va-t-il faire pour aider Adam à sortir de son buisson sans lui faire peur et sans trahir, sans contraindre sa liberté? Ben, Dieu n'a rien trouvé de mieux que d'aller à la rencontre d'Adam, nu lui aussi. Adam, n'aie pas peur de ta nudité, moi aussi je suis nu. Et je suis nu, cloué, là, tu vois, je te regarde d'un regard qui ne pèse pas. Non seulement qu'il ne pèse pas, mais je te regarde comme je regarde le mauvais larron, je te regarde comme j'ai regardé Zachée, comme j'ai regardé la Samaritaine ou la femme adultère, comme j'ai regardé Pierre à son reniement, d'un regard qui... Allez, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Alors ça, c'est le comble de la miséricorde de Jésus. Alors Adam peut... Soit Adam décide de rester dans le buisson, comme le mauvais larron, soit il choisit de sortir et de se donner à celui qui se donne à lui. En fait, Jésus restaure, Dieu restaure la liberté de l'homme. La liberté est entière. C'est le regard de la miséricorde qui fait ça. Et le regard de la miséricorde, c'est à travers le regard de Marie. C'est le regard de la miséricorde de Marie. Et ce regard de la miséricorde est un regard qui restaure la liberté de l'homme. Qui restaure, vous voyez, sa liberté, parce qu'il restaure sa dignité. C'est un regard qui me relève. C'est fantastique, ça. Ils étaient nus et n'en avaient aucune gêne, aucune honte. Ça, c'est la miséricorde qui fait ça. C'est ce regard qui rétablit la vérité. Au fond, la conclusion de tout ça, c'est que je ne retrouve la vérité de mon regard que dans la conscience de mon péché, mais je ne trouve la conscience de mon péché que dans le regard de la miséricorde de Dieu. Sinon, j'ai trop peur de mon péché, je ne peux pas le reconnaître. C'est une phrase de Jean-Paul II qui m'avait saisi et que je développe très souvent parce que ça reste un de mes actes de travail permanent. Jean-Paul II disait dans un texte, un des tout premiers textes de son pontificat, sinon le premier, avant même sa première encyclique, c'était une exhortation post-synodale sur la réconciliation et la pénitence. Et Jean-Paul II dit que la découverte, alors je le dis en latin parce que c'est plus joli, mais puis ça fait bien, ça fait croire que je suis savant. La découverte du mysterium pietatis est contemporaine de la découverte du mysterium iniquitatis. Ça veut dire, la découverte de mon péché est contemporaine de la découverte de la miséricorde de Dieu. La découverte de la miséricorde de Dieu est contemporaine de la découverte de mon péché. Plus je découvre l'amour de Dieu, plus je découvre mon péché. Plus je découvre mon péché, plus je découvre à quel point Dieu m'aime. Et c'est exactement ce qui se passe pour dans le bon larron, c'est instantané, dans le même mouvement. Il ouvre son cœur, il y a la confession de son péché, et dans la confession de son péché, il y a la foi, il voit Dieu, il voit l'amour de Dieu, il voit l'amour de Dieu triomphant qui est capable de lui donner la vie. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Découvre la royauté de Jésus. Autrement dit, c'est dans la réconciliation avec Dieu que je réajuste mon regard. Et quand je sors du confessionnal, si vraiment je me suis confessé correctement, quand je sors du confessionnal, je suis restauré dans ma dignité d'homme, et à la limite, je n'ai plus besoin de... Je continue à m'habiller quand même en sortant du confessionnal, rassurez-vous. Parce que je vis dans un monde qui est un monde obscur, un monde pécheur. Mais au fond, en sortant du confessionnal, je n'ai même plus besoin de m'habiller parce que je ne m'occupe plus de moi-même. J'ai retrouvé le sens du regard qui est dans le vis-à-vis. C'est ça le premier effet de la réconciliation. Et du coup, je suis restauré dans ce regard qui me met debout. C'est beau ça. Et je ne peux pas me confesser autrement que dans le regard de la Vierge Marie, autrement que sous le regard de la Vierge Marie. C'est un des éléments clés, évidemment, de la reconnaissance de mon péché. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Et du coup, et puis j'arrête là-dessus, du coup, évidemment, mon regard sur les autres, mon regard sur moi-même est complètement restauré, mais mon regard sur les autres aussi. Parce que, en sortant du confessionnal, j'ai pas envie de faire le fanfaron, mais en même temps, je suis joyeux, parce que je suis restauré dans ma dignité d'homme, et donc je peux porter sur les autres le même regard que Jésus. Donc un regard qui est un regard qui libère, un regard qui grandit, un regard qui est... Et je suis rétabli dans la relation. Je suis réajusté dans ma relation. Allez, je m'arrête. Merci de votre patience. Et s'il y a éventuellement quelques questions, je suis prêt à les affronter. Je ne vous promets pas d'y répondre, mais je vous promets de ne pas les esquiver. Si vous préférez, peut-être qu'il n'y a pas de questions hein, après un topo comme ça, parce que si vous préférez écrire des questions sur un papier, n'hésitez pas, parce que quelquefois c'est plus facile de le faire d'une façon.